l'imagination de soi et du monde par le hacking de réalité. Voilà tout ce qui nous reste. Merci pour tout, c'est parfait. Tout ce bordel pour en arriver à cette ultime solution, conclusion inévitable, hacker le monde et soi-même. C'est-à-dire pénétrer au cœur du système, transformer, changer les règles de l'intérieur. Mais l'intérieur de quoi? Le monde, cette réalité mutante, cet hologramme, cette projection, ce rêve fractal. Vouloir changer le monde revient à se changer soi-même. Je n'amène rien de nouveau ici. Le nouveau n'existe pas par rapport à un passé et la réalité du passé est une chose très relative. Je rappelle, je révèle et canalise, c'est mon job. Passeur, vecteur, traducteur au présent, entre les différents niveaux de réalité. Je travaille dans la création de réalité, la science métaphysique critique et le hacking spirituel. Un truc ancien, présent et futur. Un travail précis sans ordi, sans rien d'autre que l'attention à la source de l'intérieur donc. S'introduire par effraction en soi. Effectuer une extraction de pensée, une extraction quasi forcée, braquer son système, hold-up abouti, faire sauter les mécanismes de notre propre sécurité, transformer ses règles et sa réalité, broyer le mental conditionné, défoncer toutes ses croyances pour ne plus subir l'empire et en inventer de nouvelles. Parce qu'il ne s'agit plus de douter de tout, ni de faire l'athée et le croyant, ni même être idéaliste ou védantiste, mais bien d'expérimenter un libre, libre arbitre. Quel choix désormais reste-t-il à part détruire et créer ses propres croyances pour cet insondable et étrange plaisir de les mettre au supplice et les expérimenter, choisies et construites comme des voyages, des changements permanents, libres et sans peur, et réinventer sa créativité dans une double contrainte ouverte, une utopie réaliste. Ok, je m'appelle Joachim Montessui, j'ai été joueur de sitar en Inde il y a longtemps, un aria puis un dasyu, joueur de luth et troubadour en France au 13e, guitariste, vocaliste, guérisseur en devenir au 21e. Je me sers de mes mains et de ma voix depuis toujours, berger berbère, flûtiste au Maroc, en Crète et en Sardaigne, touareg au Niger, voleur des grands chemins en Angleterre au 16e, marin portugais. J'ai vécu sous l'eau, sous terre et dans les airs aussi, et en Australie avec les aborigènes, la dernière branche néandertalienne sur terre. J'ai souvent été une femme, je m'entends bien avec elle, sorcière noire au Tibet et puis chamane en Amazonie, prostituée poilue à Ornans, j'ai souvent enseigné et guéri. Je n'ai jamais eu besoin de drogue pour ouvrir les portes, parce que je me souviens de toutes mes vies, et je vois suffisamment de choses en fermant les yeux. Mes visions et mes souvenirs me rappellent que rien n'est fixé et que la mémoire est autant une création spontanée qu'un enregistrement neuronal génétique et cellulaire, comme le temps qui n'est qu'un phénomène subjectif et linéaire qu'en apparence. Tant que l'on n'y prête pas attention, rien n'est fixé, et surtout pas un cerveau, première projection tridimensionnelle de la conscience. Mon imaginaire est libre et inspiré. J'entends des voix aussi, parle des langues oubliées en dormant, ou fait des rêves lucides. Ma famille est une filiation de médiums inconnus. Nous parlons avec les morts depuis longtemps. Je vis et survis souvent. Je ne suis contre rien. J'aime tout en riant, spécialisé en rien, et peut-être trop ouvert. Bon à rien, c'est ça le terme. Voyageur de l'inconnu et non spécialisé. Un spécialiste est forcément incompétent. Je n'ai pas de territoire. J'ai choisi la discrétion. J'ai joué ma vie à pile ou face une fois ou deux. L'infrapsychisme et l'inframince, l'art quantique, le son et l'inspiration comme mode de fonctionnement, orchestre et erratum for life, comme un païen tranquille en autopoïèse ou comme tout ce que vous voulez. Ma soif de culture classique est morte, je ne suis pas allé dans un vernissage depuis 10 ans, parce que l'art se passe partout à chaque instant. J'affirme toutes sortes de choses et leur contraire et considère la structure qui les contient comme l'ensemble des possibles. Contradiction maximale et poésie cosmique, expérience intuitive et subjective de non-dualité, la dernière et ultime avant-garde, la très vieille avant-garde, l'ultra-responsabilisation finale de tout ce que nous percevons, l'arrêt complet du système de victimisation et de toute forme de culpabilisation d'autrui dans une équanimité ferme, l'art de faire de l'art sans rien faire, l'art de faire la guerre et la paix avec, contre et pour soi, la non-dualité, ce qui rassemble et unifie cet imaginaire commun que sont l'art quantique et poétique, l'art des paresseux vaillants, le secret de la création permanente absolue de Filiou, l'art des happenings quantiques, car il s'agit au final de ne strictement rien faire, simplement inspirer et être inspiré, enthousiaste, pas voir du Théo sans soi, créé sans rien faire d'autre qu'assouplir sa conscience dans une spontanéité ultime, parce que l'énergie suit la pensée, la mémoire est réellement libre, arbitrée et construit sa réalité comme une fiction, parce que l'imaginaire cristallise ses réalités et parce qu'il n'y a aucune séparation réelle entre la réalité et la fiction. L'on pourrait dire que le contraire est vrai, mais je parle au contraire du contraire, un principe de non-contradiction inversée, l'au-delà de l'impasse de la séparation binaire du subjectif et de l'objectif, une contradiction ternaire dans la logique de l'énergie ou la logique dynamique du contradictoire du type sujet-objet tiers inclus de Lupasco, comme une double contrainte insoluble résolue par l'inclusion tranquille d'une logique d'exclusion dans un ensemble évolutif. La première chose à comprendre, c'est que si vous êtes en désaccord avec quoi que ce soit ici, alors vous avez probablement tort. Il faut en finir avec l'objectivisme et les jugements assertoriques. Ce livre n'est pas un paradoxe près, simplement tendre à, comme une carte, réinventer enfin un déconstructivisme quantique et sucer le tripolaire de la matière-énergie, expérimenter l'espace multidimensionnel comme une réinvention de soi à travers l'inversion comique de la définition absolue, dans une dialogique à l'œuvre, partout où il y a complexité, car le dialogique est précisément l'espace du tiers inclus. Le réel est au minimum contradictoire. Je suis l'autre, comme disait Nerval, qui voulait dire par là qu'il était vivant. Un siècle de physique quantique en Occident aurait déjà dû suffire pour comprendre cette vieille avant-garde ici, simplement parce que l'Occident est allé à l'envers, parce qu'il n'y a pas de réalité objective à décortiquer sans fin. Nous avons déjà dépassé le ridicule. La non-dualité est une lente mutation inévitable de ce qu'il reste de la culture occidentale. La fusion finale de l'Advaita Vedanta, cette gnose non-duelle hindouiste, et de notre petite physique quantique qui tente très péniblement à digérer et appréhender depuis un siècle la nature inséparable de la conscience avec ce qu'elle observe. Lieu commun et concept trimillénaire que l'on retrouve dans les Védas, le bouddhisme ou la Kabbale, l'inéluctabilité de la prise de conscience progressive, globale et collective que tout est conscience et que chacun est potentiellement auteur, acteur et créateur de sa réalité est une révélation de la conscience à elle-même et pour elle-même. 300 000 ans pour aller de la proto-science à la biologie quantique occidentée. Si l'apocalypse est une révélation, alors nous y sommes. Révolution dans l'histoire de la révélation. La perception de la conscience existe sur le fil entre le monde quantique et classique dans une non-distinction concrète entre intériorité et extériorité, vécue comme une ubiquité fractale plutôt qu'un solipsisme simpliste, cette banqueroute métaphysique qui oublie que la réalité est partagée dans une multiplicité insondable de points de vue uniques, solitaires et responsables. La science moderne est la première à désirer une ouverture sur le spirituel, probablement parce qu'elle comprend que la spiritualité est elle-même une science en devenir qui va bien au-delà de la simple intuition. Et cela même si les mots ne peuvent tout décrire. Après l'asphyxie des religions revient l'air vital de l'ontologie naturelle et de la spiritualité naturelle, cet élan de la nature réelle de l'homme pour nourrir ses besoins fondamentaux. Un système libéré de toute croyance ou incroyance, comme une nouvelle Weltanschauung qui n'est que la conception, la perception et l'interprétation du monde de chacun selon sa sensibilité particulière et acceptée par d'autres comme une réalité potentielle. Rejeter le spirituel sous prétexte de New Age machin ou de religion est une arnaque intellectuelle irrécevable, une posture nourrie de peur et de colère mal canalisée. Il ne s'agirait même pas de devenir ascétique ni d'expérimenter une relation ouverte avec la réalité, parce que nous sommes tous les co-créateurs de réalité. Comprendre et expérimenter que toutes les croyances et les incroyances se matérialisent revient à expérimenter les lois de la physique dans leur plasticité. Penser que les lois sont immuables est une croyance profonde et un frein pour un autre arbitre exponentiel. Accepter le réel sans résistance est une porte ouverte sur un secret rationnel. Ne peut penser le monde intégralement parce que la conscience, arrivée à un certain stade de maturation, ne cherche plus à expliquer que le réel soit plus que rationnel, simplement parce que les mots ne suffisent plus. le son et la voix. Sanskritam, le sanskrit parlé, cette vieille langue liturgique originelle est peut-être la langue parfaite, celle où le son d'un mot et sa vibration est la plus proche de la vibration de la chose elle-même. Ce n'est pas très difficile à comprendre, mais je le répète, la vibration émise par le son d'un mot est la plus proche de la vibration de l'objet lui-même. Chaque objet vibre, cela veut aussi dire que le sens d'un concept vibre et que chaque pensée vibre. La voix est le vecteur suprême du sens, le mot, le verbe, langage doublé, entrelacé, les entourer en spirale et les toucher. Le son comme vecteur de non-dualité entre soi et le monde, la poésie et de la musique. La discrimination entre poésie et musique est une arnaque conceptuelle. Ne pas résister au son, chaque son perçu désagréablement est un nœud à défaire dans le corps. Aimer tous les sons revient à fluidifier et assouplir toute agression apparente, toute forme de résistance au monde épuise le corps. La vibration du son, perçue comme objet, n'est en fait qu'une jonction de ma vibration à la tienne. Une résonance fractale d'un sujet, tout tourne et tout vibre. S'ouvrir au son permet de se droguer pas cher, les neurotransmetteurs en partout. Rentrer en résonance avec le monde, c'est l'embrasser. La jonction de l'émetteur et du récepteur, simple comme la lune, la vie est une onde. Shabd est le son courant qui vibre dans toute la création, audible par les oreilles internes. La pensée dite musicale est une pensée du même ordre qu'un concept philosophique. Mais il faut avoir cette pensée en soi pour le savoir et le comprendre. Les intellos auront toujours du mal à saisir cette histoire. Durée, temps, différence, répétition, le flux, le désir, la création, en musique, ce sont les mêmes concepts opératoires. Toute la musique que nous entendons est le miroir de notre âme, un pont entre une pulsation simple et ce que l'on appelle la joie, car tout ce qui rend joyeux est le processus même de ce qui tend à devenir une réalisation de la notion d'amoureux. L'état amoureux est une projection tridimensionnelle d'une ouverture dans un espace-temps fermé qui nous indique que nous nous projetons afin d'apprendre qu'un regard posé nourrit le regard posé et que toute forme, toute intention d'observer est une forme qui tend à se découvrir en train de se fouiller pour prendre conscience de cette même forme en train de se créer. Car toute création de forme n'est qu'une prise de conscience d'un état qui tend à s'incréer tout en expérimentant le contraire. Car seulement dans l'opposition et l'annulation de cette création formelle, cette création prendra conscience qu'elle est elle-même une création de l'esprit, une projection, une pensée non mentale au-delà du cerveau, un rêve pulsé, une rythmique attractivement duelle, la pulsation du soi pour jouer de sa multiplicité inventée. Ce texte est un mantra sonique et un mantra est un support de méditation et de transformation. Un outil de l'esprit créatif et sert à canaliser le mental discursif. Om est le premier mantra et le son de la voix en résonance avec son corps, sa conscience et le monde. Lire ou réciter un mantra est un voyage psychédélique car nous sommes en train de synthéser de la DMT, diméthyltryptamine pour les intimes, ce puissant psychotrope naturel que l'on retrouve dans l'ayahuasca et qui est produite par la glande pinéale. À la naissance et à la mort, ou lors de nos extases sexuelles, ou lors de NDE et de rêves éveillés, mais aussi et surtout en méditation. La synthèse de DMT est une opération consciente du conscient profond pour nous aider à basculer d'un plan de réalité à un autre. Méditer est un acte de création radicale et nous connecte aux réalités imperceptibles par les sens. Méditer en lisant est une méditation tout de même assez particulière. DMT est la source de lumière visionnaire dans des expériences transpersonnelles. Fixer un son. Mais quelle idée schaefferienne ennuyeuse, toute empreinte de phénoménologie mal digérée. Pierre Schaeffer, disciple de Gurdjieff, celui qui recherchait la clé de la musique objective. La distorsion du son n'est là que pour tordre le réel. Leur utilisation du son lorsqu'ils chantent dans leur transe, le langage ou les mots sont tordables, leur donner un double sens. Déformer leur son pour arriver à un autre sens. Les mots qu'on peut utiliser dans le quotidien ne seront jamais plus que des mots. L'essentiel s'exprime mieux dans le non-dit, dans le chant, ou dans l'image, que dans le dit, avec ses mots descriptifs et frontaux. La métaphore est ce qui permet de nommer les choses correctement, c'est-à-dire indirectement. C'est le langage double et entrelacé des chamans, Sai Yushto Yushto, comme disent les Yaminawa, langage twisting twisting. Psychopoésie, littérature redégénérative, langage doublé et entrelacé. Selon un certain point de vue, le langage ferme la réalité en lui donnant une forme limitée. Comment retrouver un langage double et entrelacé, les entourer en spirale et les toucher? Le jeu de mots est une réalité twistée. Fulgurance poétique, un cri extatique donné est une vibration, un son projeté qui remonte de l'anus jusqu'au sommet du crâne et qui transperce le corps dynamiquement et énergétiquement. Une déflagration vitale qui nourrit et qui éveille les sens et recentre, dont la fonction est bien de fluidifier instantanément les flux internes de celui qui reçoit, qui n'est évidemment lui-même que l'émetteur de son désir de s'éveiller. Avez-vous déjà considéré le fait que les pensées étaient des sons? Se regarder en silence produit de la musique invisible. Alors maintenant, faisons de la musique télépathique, partageons quelques mondes. Le pouvoir de la répétition. 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 Son d'extase, la transe, utilisation des clichés, des musiques de drones partout. Ce qu'on appelle poésie sonore, ou poésie bruitiste, ça n'est ni plus ni moins que le souffle retrouvé. Le fait que vous respirez, vous soufflez, inspirez. Je ne pompe pas, je souffle. Les mélodies populaires sont codées. Chaque mélodie est un code. Le choix d'écouter une mélodie et d'aimer une musique est le libre arbitre qui révèle ce code qui permet à une pattern de se coller à son ADN. Soma, douteux et tendancieux, la transe, chaman, la voix, le code, immanence du désir, époché, suspension du jugement, agir dans le mouvement de la vie. Les langues slaves mobilisent l'écoute entre 125 et 8000 Hz. Le français, ça se passe entre 1000 et 2000 Hz. L'italien, entre 2000 et 4000. Et l'anglais, entre 2000 et 12000. Autrement dit, la langue française est l'une des langues les plus plates de la planète. Presque un drone. C'est pour ça que les français dorment debout et manquent d'inventivité en musique. Big Bang, 52 octaves en dessous du do naturel. Enthousiasme et inspiration sont une seule et même chose. Nous inspirons et nous sommes tous inspirés par quelqu'un ou quelque chose. Enthousiasmos, avoir Dieu en soi, autrement dit la possession par le souffle divin, le pneuma, esprit souffle et le ki chinois, c'est pareil. Être enthousiaste revient à être gonflé. Une fois gonflé, ça roule et la respiration continue. L'enthousiasme revient à percevoir ce qui relie les différents niveaux de réalité. La mort est l'inspiration nécessaire de la conscience avant sa cristallisation formelle dans la vie. La vie est une lente expiration avant un retour de cycle. De la même manière, nous inspirons l'autre dans le réel en le fertilisant de notre créativité. Et nous sommes fertilisés par des voies inconnues. L'irréel et l'invisible nous inspirent. L'inspiration est un processus comique parce que tout ce qui est inspiré gonfle. Être traversé, inspiré, recevoir, transmettre, vecteur, se rendre compte que tout cela est un rêve et que la réalité est avant tout psychique. Le réel invisible nous inspire, le surnaturel, les déités. Nous sommes le monde et le monde est une projection. La réalité de l'autre en soi est une projection. La projection de la réalité de l'autre en soi est un monde. Le monde de la réalité projetée en soi est un autre. L'autre, projection de soi dans le monde, est une fractale d'un tiers. La multiplicité des points de vue n'est qu'une réalité partagée en apparence, car chaque conscience imprime son illusion. Le monde de l'autre dans la projection de soi est une inspiration. Aimer est plus difficile que haïr. C'est le travail ultime, le graal humain, la dernière barrière à sauter. La fonction du chaman est de nous relier et de relier le visible à l'invisible. Il utilise pour cela sa voix, parler, chanter et vociférer, qui active un code et qui permet une régénération. Un chaman chantant fait de la biologie quantique naturellement en nous permettant de nous recomposer cellulairement avec la mélodie appropriée. La régénération est une guérison poétique et quantique. La poésie est une manière de se reprogrammer et de réinventer sa relation au monde. Il n'y a aucune séparation réelle entre le son, le mot, le verbe et le sens. La poésie est une porte d'entrée vers la réactivation du réel et de son libre arbitre par la prise de conscience et l'éveil. Nous nous réencodons génétiquement et biologiquement par nos pensées qui sont des vibrations. Les vibrations sont des sons et notre structure physique et psychique est une sculpture vibratoire. Un poème agit comme un code qui reprogramme la matière. Une musique agit comme un code qui reprogramme la matière. Reprogrammer la matière est une reprogrammation de la conscience par elle-même. Il n'y a strictement aucune une différence initiale entre poésie et musique. La division entre ces deux choses est une errance conceptuelle qui n'est qu'un ralentissement dans l'exécution d'un programme. Il n'y a rien de mécaniste dans l'imaginaire d'un programme de réalité, car un mécanisme humain n'est qu'une réduction médiocre.
Thank you.
de pression thermique. Il ne s'agit pas d'une matérialise de poste, mais de donner une attitude nouvelle dans les économies, mais d'inventer sa liberté en imaginant sa propre logique de pensée, précisément comme aristotélicienne. La sémantique générale et la science physique sont des outils actuellement en phase avec la pensée poétique. La subversion poétique est la seule possible pour faire éclater le réel. Un langage en liberté est un esprit poétique et quantique évadé. Vouloir définir définitivement un mot et ce qu'il désigne signifie sa mort dans l'arrêt de sa transformation potentielle. Parce qu'il ne s'agit pas de confondre poésie et musique, c'est de penser comme mort séparée. Un musicien n'arrive pas à se saisir de sa pensée s'interroge à l'infini sur son langage. Un poète fait de la serve un instant de savoir et parce que la conscience, un poète sans voix n'est pas que celle fixée par les croyances sur son souffle, et c'est la souplesse qui rend ténor que très vite qu'on touche le mystère actuel et la découverte de la médiumnité potentielle en chacun à travers la redécouverte de l'infini en soi. La simultanéité de l'espace-temps est une redéfinition intégrale de notre rapport au monde. La non-dualité en Occident, ce serait comme si un scientifique athée radical comme l'anglais Richard Dawkins et le pape baisaient ensemble la réconciliation des oppositions impossibles, la jonction tranquille entre sujet et objet. Penser que la foi est un virus revient à penser le monde sous l'angle de la maladie, alors que toute maladie de corps n'est que le fruit de la peur. La peur est le fruit de la division et de la rupture entre la conscience et le monde, et la division entre la créature et le créateur devient impensable à l'instant où l'homme prend conscience de son potentiel créateur et de son libre arbitre. Cette clé puits qui diffère selon chacun. Un libre arbitre exponentiel indique qu'être auteur de sa vie est une façon de créer des mondes. La discrimination entre créateur et créature est une arnaque conceptuelle, occidentale et tyrannique, une colonisation par la peur de l'inconscient collectif. Nous n'avons besoin d'aucun champignon pour toucher d'autres réalités, parce que la conscience crée la matière quantiquement et non pas l'inverse, bien que dans une certaine mesure le contraire soit vrai. Car la matière est aussi autonome au sein de la conscience qui la nourrit dans un mouvement. L'esprit de Beaumarchais et la SACD seront bientôt contents de prendre conscience de n'avoir été que des petits intermédiaires pompeurs de misère intellectuelle, bientôt libres par la compréhension et le dépassement d'un fonctionnement névrotique face à la réalité. Un auteur qui milite pour ses droits alors qu'il est inspiré par l'invisible et dix humains eux-mêmes inspirés par des milliers d'êtres avant lui est un auteur égoïste et profiteur, et ce n'est pas grave, parce que la raison d'être ici est justement de dépasser l'égoïsme. La raison d'être de ce qui est vu est seulement d'être vu. La connaissance du réel permet la libération du spectateur, car il n'y a plus d'identification ni du spectateur ni du spectacle. Un être conscient est un créateur de réalité. Un créateur de réalité est un alchimiste absolu, un être cosmique participant, acteur, metteur en scène et spectateur. Le monde est son grand œuvre, c'est très simple. Nous avons une œuvre à faire, le grand œuvre, l'alchimie finale, le Gesamtkunstwerk, dernier stade, la grande mise en branle et l'extase de la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bien intéressant à foutre en 2012 sinon? Se farcir des performances et frimer dans les salons, faire de l'art avec des objets ou écrire des livres, business et ego trip. Media Contemporary Art equal Speculation of Ego Bullshit. Comme option créative, c'est sympa, ça nourrit son homme et ça paye le loyer, mais ça ne rend pas forcément vivant. La subversion subventionnée a aussi sans doute fait son temps. C'est l'envergure facile, classique, pour éviter de penser à tout ça. Ce contre-taper de la conscience, c'est l'assurance d'une vie molle et moribonde. Le monde que nous percevons est simplement la cristallisation, la projection et la formalisation diversifiée de la conscience. Par exemple, ce texte est une manifestation directe de vos propres croyances, une création simple. Nous en faisons notre expérience, ce livre et ce texte n'existent que parce que vous les observez. Je veux dire par là que ces mots ne sont vraiment pas les miens. L'acte de lire est un élan de la conscience qui cherche à se fouiller et se découvrir tout en désirant des fulgurances et des ouvertures sur d'autres. On se lit soi-même en lisant un livre. Vous êtes en train de vous lire vous-même. Vous êtes en train de vous écouter vous-même. Joël Sternheimer, depuis 40 ans, décode les protéines et leur niveau de fréquence vibratoire pour en extraire des mélodies simples et qui, par résonance d'échelle et diffusées à faible volume, font vibrer et pousser des tomates dans le désert. La stimulation quantique par la mélodie est une manière de plus de comprendre le vivant. les envolées potentiellement géniales de nos plus grands cerveaux sont à imaginer inlassablement comme des bulles de réalité affinées. Une poésie sans imaginaire de réalité affolante est une poésie morbide. Le morbide est une limitation de l'imaginaire à travers cette vieille pulsion de mort qui nous colle aux dents comme du carambar. Penser être victime de son addiction parce que la substance serait plus forte est une négation première de la conscience elle-même créatrice de cette substance. Se laisser déborder par ses émotions démontre une addiction à la chimie interne, associée à ses émotions. Un suicide lent est toujours pathétique. Patheticus, accessible aux impressions extérieures. Une impression extérieure est une illusion. Il n'y a pas de possession, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas d'intérieur, pas d'extérieur. Il n'y a pas de mauvaises entités. Encore une forme pensée qui déforme tout message. Toute télépathie est une forme pensée. Tout message de l'au-delà est une forme pensée profonde sur un plan vaste de notre conscience relié au tout dont nous ne sommes qu'une fractale. Les souvenirs ne s'enregistrent pas dans le cerveau. Nous n'archivons rien. Un cerveau n'archive rien. Il n'y a rien que du vide qui prend la forme que l'on veut bien lui donner. Nous sommes des créateurs et non pas des victimes. La méthode autosuggestive d'Emile Coué que les Américains détestaient parce qu'il mettait en danger le business. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. De toutes les façons possibles. Et tout son fatras de pensées positives, ça ne faisait pas de business dans la pharmacie et le reste. Effectivement, être vivant ne coûte rien. Nous rêvons des uns et des autres en dormant. Gandhi et Marinetti étaient les Arya et les Dasyu du XXe siècle. L'arc fatal psychique de la non-violence et la violence est un pas de plus vers chaque être qui nous regarde, n'est qu'un miroir, nous montre qu'il n'y a qu'une seule personne derrière tous ces regards. Chaque regard n'est qu'une extension de notre propre regard à travers un champ d'expérience autre, une différentielle vibratoire. Amener le monde à la transe, la nature de la réalité. Il est une source simple de compréhension de la réalité, à savoir le temps passé à regarder les éléments, devrait fournir à chacun la possibilité de voir ces éléments se transformer. Et c'est cette transformation qui contient le code, car cette transformation est une alchimie psychique conçue comme source de méditation et compris dans son caractère d'éphémérité subtile. La facilité avec laquelle tout un chacun pourrait passer et sortir de ce monde est en fait à la portée de tous. Les Américains et leur sous-culture, on appelle cela de l'ignorance, de la gnose inversée. Il n'y a pas de révolution sans révolution intérieure. Le nouvel âge, on l'emmerde et on l'invente nous-mêmes. Le libre arbitre de chacun dépend de son évolution spirituelle. Celui qui ne comprend pas cette phrase ne peut simplement pas encore la comprendre. Confondre exploration et arrogance revient à prendre un coca pour de l'eau. Toute tentative de culpabilisation est vouée à l'échec. Je me suis souvent demandé pourquoi les fluxus n'ont jamais dit « art égale mort », prétendre uniquement que « art égale vie » évacue tout de même 50% de la réalité, à moins de dire que la mort fait partie de la vie. Mais l'on peut dire aussi que la mort est une autre vie, une vie dans la vie, et qui terrifie, d'où son caractère névrotique en Occident. Les humains se cherchent, c'est d'ailleurs pour ça que Google a beaucoup de succès. Le pouvoir de la rêverie. L'extase est ce moment où la non-dualité est réalisée. Corps et esprit, le moment ici et maintenant, hors du percept du temps où la créature et le créateur s'embrassent et baisent enfin. Reprogrammer le biologique, nos yeux sont des lasers qui cristallisent le monde simultanément. Le compost est un procédé biologique de conversion et de valorisation de matière organique en un produit stabilisé, semblable à un terreau. Le compost fertilise. Produit obtenu par la fermentation des déchets organiques en présence d'oxygène, c'est un amendement organique qui permet d'améliorer la fertilité du sol. Il s'agit d'ouvrir la créativité jusqu'à recréer sa réalité. Clairvoyance, télépathie, précognition, pneuma, se glisser dans l'interstice, pensée liquide et sans logique. Petit rappel à la con 4. Ce livre est un ensemble de pseudo-croyances choisies et expérimentées. Les humains sont heureux quand ils sont créatifs. Nous sommes ici sur Terre avec toutes les expériences que nous vivons, parce que nous l'avons voulu et programmé ainsi. La réalité est une fiction. Pourtant, le dictionnaire me dit que le mot « réalité » désigne le caractère de ce qui existe effectivement, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Heureusement que les lois de la réalité sont souples, potentiellement évolutives. Le travail sur la conscience est la seule voie possible. Tout le reste n'est que de la procrastination erratique, nourrissant le désir obscur du refus de progresser. régresser consciemment est soit un suicide tranquille, soit un acte comique. Et un acte comique de ce type est une dissolution de l'idée de progrès ou de son inverse, parce que l'humour et le fou rire sont des enfants en train de jouer dans le cosmos. Et jouer dans le rire est le propre de l'esprit inconditionné, apparition éternelle qui tourne. Quoi de pire que celui qui dit « ce n'est pas réaliste enfin ». Hacker sa conscience est bien plus stimulant que de hacker un ordinateur. Fermer sa porte et avoir peur des voleurs est la meilleure manière de les attirer. De la même façon qu'avoir peur de ses pensées et de ce que l'on pourrait trouver dedans est la condition parfaite pour être abruti à vie devant une télévision. Merci Louis XIV d'avoir inventé la hype et la mode et ton palais des glaces qui réfléchit ton égo trip en abîme. Merci d'avoir allumé cet éternel désir d'excellence, de briller à l'infini. Merci d'avoir inventé ce délire d'élite arty qui n'en finit plus de fouiller le corps de l'art français comme un ver grouillant dans sa merde. Merci encore d'avoir fertilisé le monde de l'art et l'avoir hypnotisé par la mode. Louis XIV, l'État, c'est moi, pensée, parole et action une. Vivre intensément veut dire péter les plombs à chaque seconde. Deux silex étincelles allumées, consumées, phénixées. Petite méditation avariée de 99 de cas psychiatriques dans le milieu de la poésie. On est tous complètement malades. Les poètes qui détestent les nouvelles technologies sont généralement ceux qui en ont peur et qui ne savent pas s'en servir, et donc prétendent en gros que cela n'apporte rien. Le printemps des poètes devrait se passer en hiver, ce serait plus adéquat. Quel est l'inconscient collectif de la poésie? Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Autant détruire l'avidité rapidement. Aimer vraiment, être dans l'amour, c'est dur de nos jours. Nous sommes le fruit de ce que nous avons toujours voulu créer. Prière, contemplation, la compassion est l'acte de pensée le plus radical que je connaisse. Et spirituel, le début de ceux qui ont gagné la bataille des nerfs. Nous partons du principe ultimement et unanimement désaltérant que toute révolution s'inscrivant dans une expérience effectuée dans notre réalité perçue comme telle se fait avant toute autre action tournée vers autrui en nous-mêmes et est le fruit d'une transformation personnelle, d'une évolution intellectuelle, psychique, émotionnelle, sexuelle et spirituelle parce que nous pensons que l'homme possède un potentiel de progression intérieure que l'histoire dans votre conscience a pu démontrer. Nous avons le choix du monde dans lequel nous voulons vivre. Liberté dépend du regard que nous posons sur le monde, ses objets et ses événements, ainsi que sur les pensées émergentes qui sans cesse nous traversent. Dharma veut dire l'ordre universel cosmique. Dans l'hindouisme originel, extraire l'essence d'une faille, le grand retour du temps cyclique, objectivisation de la pensée taoïste, transformation permanente. Interdépendance absolue et dans un temps ouvert, cosmogonie qui se veut parfaite, subtilité extrême de sa pensée symbolique dont la finalité est de décrire les états du monde et leurs évolutions. La conscience s'évanouit quand elle arrive à son stade de maturation et son abandon d'intérêt pour la matière.